France Musique. Musicopolis. Borodine, 1887. Saint-Pétersbourg. Le professeur Alexandre Porfirievitch Borodine est en train de mourir. Il est au bal costumé qu'il a lui-même organisé à l'Académie de médecine, où il enseigne la chimie et où il dirige les travaux et recherches de ses élèves, lorsqu'il tombe, victime d'une crise cardiaque. Il a toujours eu une mauvaise santé, il a souvent été malade. Il ne s'en est jamais plaint d'ailleurs. On pourrait dire au contraire, puisque c'est souvent dans ces moments où il ne peut pas se rendre au laboratoire qu'il trouve le temps de composer. Il écrit « Quand je suis cloué à la maison par une indisposition, que je ne puis me livrer à mes travaux ordinaires, que ma tête se fend, que mes yeux pleurent, que je dois prendre à tout instant mon mouchoir, c'est alors que je me livre à la composition. » Alors qu'il est en train de mourir et que sa vie défile devant ses yeux, Borodine se rappelle certainement la soirée du 4 janvier 1869, qui a vu la création de sa première symphonie. Balakirev est alors le directeur des concerts de la Société musicale russe, et c'est lui qui a établi le programme. Les amis de Borodine sont là, ceux du puissant petit groupe, comme on appelle aussi le groupe des cinq. Ils sont emballés par la pièce. Un critique pourtant écrit « La symphonie d'un nommé Borodine » plu à très peu d'auditeurs et les amis de l'auteur seuls l'ont applaudi et rappelé avec ferveur. Certains critiques ont boudé la première symphonie de Borodine. Pourtant, après la création en Allemagne en 1880, Liszt, qui est alors un musicien de grande influence, lui écrira ces mots. « Je suis très en retard pour vous dire ce que vous savez mieux que moi. C'est que l'instrumentation de votre très célèbre symphonie en mi bémol majeur est écrite de main de maître et s'accorde parfaitement avec la composition. Ce fut pour moi une très vive jouissance de l'entendre aux répétitions et au concert de Baden-Baden. Les meilleurs connaisseurs, ainsi qu'un public très nombreux, vous ont vivement applaudi. S'il n'obtient pas d'emblée le succès dans les grandes salles de concert, Borodine compose néanmoins des mélodies qui ont l'approbation de son petit cercle. Viens à moi lorsqu'il fera nuit, jeune voyageur. Tu te reposeras ici sous l'eau, dans la fraîcheur et le calme, bercé par le doux balancement des vagues. Borodine écrit souvent les poèmes de ses mélodies, comme pour cette princesse de la mer. Il s'inspire parfois d'un épisode de sa propre vie, par exemple celui qui concerne Anna Kalinina, sœur d'un compositeur proche du groupe des cinq. La jeune femme était mal mariée et elle avait vécu la perte d'un enfant. Elle s'est rapprochée de Borodine, toujours très amicale et prête à apporter le réconfort à qui en a besoin. Malheureusement, bientôt, elle le harcèle, provoquant chez Borodine un état proche de la dépression. Il écrit « La fausse note », une très courte mélodie de 17 mesures. « Elle me persuadait de son amour, mais je ne la croyais pas. La fausse note résonnait dans ses paroles, de même que dans son cœur, et elle-même le comprenait fort bien. »
И в речи, и в сердце у нее.
l'époque de Borodine et du groupe des Cinq, Saint-Pétersbourg est la capitale de la Russie impériale, le siège du pouvoir. C'est Alexandre II qui règne et qui, dans les débuts du moins, réforme le pays en profondeur. Il abolit le servage et il transforme la justice, l'armée et l'enseignement. Les années 1860 sont très favorables à la musique et c'est à ce moment-là que sont créés les deux conservatoires, celui de Saint-Pétersbourg d'abord, puis celui de Moscou ensuite, par les frères Anton et Nikolai Rubinstein. Mais ces écoles ont des détracteurs, notamment Balakireff et ses amis, qui pensent qu'elles vont mettre l'accent sur la musique germanique au détriment des racines russes. De plus, les conservatoires s'adressent à des classes aisées qui ont les moyens de payer les cours. Pour contrebalancer cette influence, Balakireff fonde une école gratuite de musique qui insiste en particulier sur le chant choral et la pratique de l'orchestre. Les opéras occupent une grande place dans la production des compositeurs du groupe des Cinq. L'opéra est un lieu idéal de revendication d'une identité nationale. Et depuis 1836, avec La vie pour le tsar de Mikhail Glinka, puis son Rouslan et Ludmila, les compositeurs se sont tournés vers ce genre pour donner au pays un véritable répertoire national. La Judith de Serov, la Roussalka et le Convive de pierre de Dargomyski ont suivi. Des opéras qui mettent particulièrement en valeur le caractère russe de la musique.
Богатый, а мы как же дисмальвек? Ну как же мы идем через мальвек? Вот кто-то упрямый, одно и то же надо вам вернить, что раз одно и то же надо вам вернить, что да надо вам вернить, что раз.
À la fin des années 1860, les cinq compositeurs du puissant petit groupe se sont mis à composer des opéras. César Cui écrit William Radcliffe, Moussorgsky Boris Godounov, Rimsky-Korsakov La Pskovitaine et Balakirev se met à un oiseau d'or. Borodine, lui, entreprend La fiancée du tsar, qu'il va abandonner bientôt pour travailler sur le prince Igor. Dès 1869, il commence avec Le rêve de Yaroslavna. Avant de commencer son opéra, Borodine, en homme de science, a pris soin de réunir une foule de documents. Le point de départ est un texte dont l'action se situe à la fin du XIIe siècle, le dit de l'Ost d'Igor, qui raconte la guerre entre un prince russe, Igor, et un peuple nomade oriental, les Polovtsiens. Borodine en profite pour étudier les récits épiques traditionnels, les bilines, et il fait avec son épouse Yekaterina un voyage en Ukraine dans la ville de Poutivle, où se déroule le début de l'opéra.
Oh.
Alors que Borodine a avancé sur son opéra, qu'il a réuni toute sa documentation, qu'il s'est plongé dans les épopées médiévales, au bout de quelques mois, il se décourage et il décide d'abandonner. L'influence sans doute de son entourage et de son épouse, qui lui disent que le temps est passé d'écrire des opéras sur des sujets héroïques ou fabuleux, qu'il faut à présent traiter le drame moderne. Et puis l'ampleur de la tâche lui paraît sans doute insurmontable, à lui qui a si peu de temps à consacrer à la musique. Il soutient alors que rien n'est perdu et qu'il va recycler ce qui est déjà écrit dans sa deuxième symphonie. Comme d'habitude, Borodine va mettre un temps infini à parachever sa deuxième symphonie. Il a de plus en plus de responsabilités à l'Académie de médecine et il a également fondé, avec deux autres professeurs, l'école de médecine pour femmes de Saint-Pétersbourg. Il écrit à une amie qu'il a dû reprendre les cours d'un professeur démissionnaire, ce qui lui a demandé beaucoup de travail. « Je m'occupe beaucoup, détaille-t-il, de l'enseignement des femmes et j'y trouve des satisfactions conformes à mes sympathies morales. » Au milieu de mes travaux académiques et scientifiques, des commissions, comités et assemblées diverses, il ne me reste que bien peu de temps pour m'occuper de musique. Je dispose quelquefois d'un instant pour me tenir au courant, pour entendre les œuvres de mes amis, etc. Mais si le temps physique ne me fait pas défaut, le temps moral me manque absolument. La tranquillité serait indispensable et ma tête est ailleurs. » Thank you. Si on ajoute à l'emploi du temps de Borodine et à sa surcharge de travail que sa femme est toujours souffrante et qu'elle passe l'hiver à Moscou, ne supportant pas le climat de Saint-Pétersbourg, on comprendra que Borodine mette plus de 6 ans à achever sa deuxième symphonie. On imagine aussi sa déception lorsque la première audition connaît un véritable fiasco en février 1877. Néanmoins, la sœur du défunt Glinka lui écrit que Rouslan et Ludmila, opéra de son frère, avaient lui aussi connu un échec retentissant lors de sa création et qu'il était pourtant à présent un fleuron du répertoire russe. Le final de la deuxième symphonie d'Alexandre Borodine, l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Sir Simon Rattle. Tout le programme de cette émission, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Nous étions aujourd'hui avec Olivier Dupré, Marie-Christine Ferdinand et Claire Lagarde.
À réécouter sur francemusique.fr.